Chapitre 15. Souvenir en ruine. Jeudi 17 août 2000, 8h45. Camp de la presqu'île sauvage, île de Mornesay. Le moine sans visage continuait de se pencher vers moi. J'allais hurler lorsque j'entendis l'ensemble de la bande de crétins derrière. Le moine fou fit tomber sa capuche et la figure hilare de Yo-Yo apparut.
« Debout, moignillon ! Monseigneur vous attend ! Tous les autres bénédictins prient déjà dans la salle capitulaire !»
Il fit sur moi un signe de croix à la con et repartit.
« Premier coucher, dernier levé !» lança la voix d'Armand dehors. « Tu vas péter la forme, Colin !»
Il se croyait visiblement déjà obligé de me couvrir. C'est vrai que je n'avais pratiquement pas dormi de la nuit. Je sortis de la tente, pas encore très réveillé. Hugo, un ancien du camp, qui revenait depuis 5 ans, nous mit au parfum.
« C'est tous les ans la même chose. Le jour de relâche, quand il n'y a pas voile, ils nous font le coup du jeu de piste. C'est bien rodé, leur truc. Les costumes commencent à être un peu usés, mais ça surprend toujours les nouveaux. Ils demandent aux anciens de ne pas vendre la mèche. Normal, non ?»«
Et ensuite ?» interrogea Armand.
« On fait des équipes et on part toute la journée chercher des indices. On a une espèce de parchemin avec des questions sur l'île. Le parcours est balisé par du papier crépon. Chacun sa couleur. »
« Super !» soupira Maddy.
Stéphanie était elle aussi déguisée en moine, ce qui ne la rendait pas trop sexy. Le père Duval, dans une espèce de robe rouge, devait se prendre pour un cardinal.
« Un peu mégalo sur ces vieux jours, papy Duval, tu trouves pas ?»
murmura Armand à mon oreille. Le cardinal et ses deux moines nous servirent un discours parfaitement huilé. Il nous fallait retrouver le trésor, nous montrer courageux, rusés, intelligents, adroits. Il y avait des bons et des mauvais indices. Des aides et des embûches. Ils nous distribuèrent un parchemin en papier cartonné de couleur avec plusieurs dizaines de questions. Ils ajoutèrent qu'on devait constituer des équipes de 3 ou 4. Coup de bol. Logiquement, Maddy et Armand se rapprochèrent de moi, en se regardant un peu en chien de faïence.
« Ça fait louche !» dit aussitôt Armand. « Tous les trois ensemble, ça fait louche !»«
Ouais, » confirma sobrement Maddy.
Armand insista en fixant la fille qui faisait 30 cm de plus que lui. Elle portait une casquette, des lunettes de soleil, un t-shirt qui flottait sur ses épaules larges et son buste sans forme.
« Par souci de crédibilité, » fit Armand à l'adolescente, « tu pourrais m'offrir un French kiss ?»« Tu peux crever avec ta crédibilité !»
Armand se hissa sur la pointe des pieds, comme s'il voulait s'admirer dans le reflet des lunettes de soleil de Maddy.
« Je rigolais, ma grande !» T'es pas du tout mon genre. J'aime que les filles avec des gros lolos et un cerveau. Et il te manque les trois.
Madia se statufia dans une position de combat de capoeira. Toi aussi, tétard, il va bientôt te manquer les trois. Tes deux couilles et ton zizi de moineau. Ça promettait pour la journée. Et Armand ne lâchait pas le morceau.
On est deux mecs, ajouta-t-il en me regardant. Le plan parfait, ce serait de trouver une autre fille, une vraie.
Et la mettre dans la combine? Fit Maddy. Je protestais. On va pas mettre tout le camp au courant.
Si tu me l'avais dit hier, continua Armand, je me serais bien glissé dans la tente des filles pendant la nuit, mon zizi de moineau à l'air pour aller faire pipi sur leur lit.
Maddy comprit qu'Armand était au courant et encaissa très moyennement l'allusion. Ce con allait tout faire foirer. Heureusement, Maddy était le bon choix. Elle avait les nerfs solides et ne s'embarrassait pas de débats philosophiques.
Les filles, il est vrai, ne savent pas tenir leur langue.
Sentant qu'Armand allait faire une nouvelle allusion graveleuse, je coupai.
« Ok, on s'en fout. On fait équipe tous les trois et je vous lâche au premier tournant. »
Nous prîmes le pique-nique. On commença à sortir du camp, parchemin en main. Il faisait encore un peu frais, mais le bleu du ciel s'intensifiait déjà. Un léger vent promenait autour de mes narines un parfum d'iode et colportait les cris assourdis de quelques mouettes, très haut au-dessus. Une belle journée. Armand rompit la poésie.
« Tu fais chier, Colin » grogna-t-il. « On va se retrouver seuls tous les deux comme des cons toute la journée. Tout ça pour tes délires. »
La perspective de passer toute la journée seule avec Maddy ne semblait pas enchanter Armand. L'adolescente parut surprise par son égoïsme.
« C'est pas des conneries, Armand. »
J'appréciais de plus en plus la maturité de Maddy, sa détermination tranquille. Je la trouvais à la fois dangereuse et rassurante. De moins en moins dangereuse, d'ailleurs, et de plus en plus rassurante.
« Si, c'est des conneries !» s'entêta Armand. « T'es frappé, Colin. Tu te crois dans un film, tu te la joues. On dirait le héros de Vertigo. »«
De quoi ?» demanda Maddy.
Je soupirai. Ça y est, Armand avait trouvé un prétexte pour sortir sa science.
Vertigo, précisa Armand. En français, si tu préfères, sueur froide. Un film d'Hitchcock. Je te la fais courte. Un type, un ancien policier, est engagé pour surveiller une fille qui finit par se suicider. Il s'en veut à mort, il déprime. Du coup, la première fille qu'il croise et qui ressemble à la morte, il la prend pour elle. Il lui demande de s'habiller comme la fille qui est morte. Comme pour la ressusciter. Vous voyez le genre ?
Armand marquait un point, je devais le reconnaître. Maddy mit les pieds dans le plat.
Et c'était elle, la fille ?
Comment ça, c'était elle ?
Fit Armand comme s'il ne comprenait pas. La deuxième fille, c'était vraiment une autre ou bien c'était la première qui n'était pas morte ?
Armand marmonna. J'insistais, sentant la faille.
C'était la même, lâcha-t-il. C'était un coup monté. La fille n'était pas morte le premier coup.
Je jubilais. Merci, Maddy. On arrivait au grand carrefour. Je les lâchais. Ils prenaient sur leur droite, vers la citadelle, et je coupais directement vers l'abbaye, à moins de 200 mètres. Avant de me séparer d'eux, je les encourageais.
Allez, les moignons, n'oubliez pas. Courageux, rusé, intelligent. Passez pas la journée à vous bécoter. On joue la gagne. Je veux le trésor quand je rentre ce soir.
Devant le sourire gourmand d'Armand, Maddy lui tendit un doigt. Armand se retourna vers moi.
Enfoiré ! T'as le droit tout de même de nous aider ? On suit les crépons rouges. Si t'en croises...
Je leur fis un signe de main et m'engageai dans le sentier vers l'abbaye.
Fais gaffe à toi !
Me lança Maddy de loin. Ça me toucha.
Enfin seul.
Je marchais doucement sur le chemin de l'abbaye Saint-Antoine. J'essayais d'organiser mes idées. Si tout se passait bien, j'avais une journée devant moi. Je listais dans ma tête mon programme, visiter l'abbaye, tenter de revoir ma nourrice, téléphoner à ma grand-mère, aller au cimetière voir la tombe de mon père. Pas de temps à perdre. Je montais sur une trentaine de mètres un chemin qui menait à l'abbaye. La grande croix Saint-Antoine, principal vestige des lieux, se détachait progressivement dans le ciel, juste au-dessus de ma tête. La force nouvelle qui m'animait depuis la veille continuait de me porter. Jusqu'à présent, j'avais toujours été un adolescent ordinaire, pas spécialement brillant à l'école, moyen, sans plus. Pas mauvais en français, largué en maths et dans les diverses sciences, du classique. Côté physique, rien de bien stimulant non plus. Taille moyenne, aversion irrémédiable pour le sport, pas spécialement mignon. Du moins, je ne trouvais pas, et je ne lisais pas vraiment d'enthousiasme particulier dans le regard des filles que je croisais. Banal. Quoi de pire qu'être banal à 15 ans, presque 16. Surtout quand on déteste tout ce qui est dans la norme. Heureusement, il y avait mon statut d'orphelin, mon atout, mon joker. Tout le monde n'a pas eu ses deux parents morts à 6 ans. À chaque fois que j'avais exposé mon histoire, les regards des autres sur moi avaient ensuite été différents. À chaque fois, je prenais de l'épaisseur dans leur regard. Mes hésitations devenaient autant de mystères. Ma timidité devenait un masque. Ma gentillesse, une force intérieure contre le désespoir. J'étais plutôt du genre réservé, voire coincé. Je ne l'avais pas raconté souvent, mon histoire. Mais par exemple, avec les deux filles au bahut sur lesquelles j'avais flashé, les deux fois, le coup de l'orphelin avait fonctionné. La dernière en date, Laurine, une fille nettement au-dessus de mes moyens, avait accepté un rendez-vous avec moi au bar du bahut. Je lui avais vendu mon histoire et bingo. Bon, d'accord, ça n'avait pas duré. Un cinéma après, elle m'avait plaqué. Mais tout de même, on ne peut pas me retirer cela, j'étais sorti avec Laurine. Était-ce choquant ? Instrumentaliser, comme on dit maintenant, mon statut d'orphelin ? Une seule chose était certaine. Raconter tout cela, toute mon histoire, oser le faire devant une fille ou une bande de garçons dont j'espérais l'estime, me faisait aussi du bien. Je n'en rajoutais pas. Je racontais juste la mort de mes parents. Puisque je n'en parlais jamais avec Thierry ou Brigitte, ni avec aucun autre adulte, je suppose que ça m'aidait à faire le deuil. C'était ma méthode personnelle. Je devenais quelqu'un, enfin. Un petit phénomène au lycée dont on parlait dans mon dos. Tu sais pas, Colin, il a perdu ses parents à 6 ans. Oui, son père et sa mère, les deux. Le Harry Potter du quartier. Sans la marque de l'éclair sur le front, mais je suis certain qu'il y avait des crétins pour le croire. C'était assez génial de pouvoir laisser croire que ma banalité apparente, c'était pour mieux masquer mes traumatismes internes, mes blessures, mes crevasses. Voilà aussi pourquoi j'avais eu envie, besoin même, de retourner sur l'île de Morne-Saye, 10 ans après. Pas par nostalgie, par vanité plutôt. Pour trouver de nouveaux indices, de nouvelles anecdotes,
des références inédites, pour ajouter quelques pages à ma petite légende personnelle. Lorsque j'avais 6 ans, je priais pour que tout redevienne normal, sans ombre ni mystère. À 15 ans, c'était tout l'inverse, et j'avais été exaucé au-delà de mes espérances. Tout autour de moi n'était que mensonge, et la vérité m'attendait, quelque part sur cette île, à condition de rembobiner ma vie. 10 ans plus tôt, aux confins de mes souvenirs. En haut du chemin, je me retrouvais face aux ruines de l'abbaye, bordées par un petit parking bitumé et 3 voitures garées. La grande croix offrait une ligne d'ombre. Il devait être moins de 10 heures du matin et la chaleur était déjà étouffante. Au bout du parking était installé un petit guichet en bois. Devant, quelques cartes postales et le journal de l'île, Lilien. Je levai les yeux. La fille au guichet était un canon. J'étais assez difficile, mais là, rien à dire. Blonde et queue de cheval, petit nez retroussé, grand sourire engageant, petit caraco sexy à dentelle et fine bretelle sur une peau au bronzage parfait. Waouh, tout ce que j'aimais. Mon enquête ne pouvait pas commencer mieux. Je me disciplinais, restais concentré. Je pris un air sage et poli. Une entrée, s'il vous plaît. Voilà, vous êtes étudiant ? Elle avait un petit accent. Mes fantasmes tendaient à me faire pencher pour un accent scandinave. Et elle m'avait pris pour un étudiant, du haut de mes 16 ans après-demain. « Non, » fis-je en rougissant comme un débile. Elle continua de sourire et me tendit le billet. « 4 euros. » Et en plus, ce n'était pas donné pour des ruines. Elle devait être étudiante en archéologie ou quelque chose comme ça, et me prendre pour un intellectuel. Ça ne devait pas courir les rues, les adolescents qui venaient visiter ces ruines. Au passage, je jetai un coup d'œil sur la une de Lilien. Un titre énorme, rouge, barrait la une. Panique sur Morneset, 2 détenus toujours en cavale. Ça m'intrigua. Je mis tout de suite cette information en relation avec les gyrophares près de la citadelle la veille. La une, bien fichue, donnait envie d'en savoir plus. Mais il fallait retourner le journal pour découvrir la suite et donc l'acheter. Heureusement que le père Duval n'avait pas eu l'information ce matin, sinon il ne nous aurait jamais laissé sortir. À l'intérieur des ruines, je ne croisais que 2 couples de touristes. Un couple de retraités et un autre plus jeune, genre prof. Lui avec des lunettes et les chaussettes remontées dans les sandalettes, accroupi à regarder les pierres. Elle, le guide bleu à la main, une osmose pathétique. Je me promenais lentement sous le cagnard. Les ruines étaient inintéressantes au possible. Quelques pierres posées les unes sur les autres. Il restait aussi les traces d'un ancien cloître et de ce qu'ils appelaient la salle capitulaire, la pièce la mieux conservée. Je m'approchai d'un petit panneau qui donnait des explications. Je lus que cette salle était la seule pièce où les moines avaient le droit de parler. J'avais au moins appris quelque chose. Je me souvenais que Yo-Yo avait employé ce terme le matin. Ces ruines m'ennuyaient. Elles ressemblaient à un chantier, un terrain vague. Il y avait d'ailleurs des barrières, des cordes à ne pas dépasser. Des panneaux, danger d'éboulement, accès interdit au public. Aucun souvenir ne me revenait. Aucun souvenir nouveau, du moins. Oui, je reconnaissais la poussière, la couleur gris-rosée des pierres, la même que sur les photos, que sur le court film volé. De la poussière et des vieux cailloux. Un décor familier, certes, mais aucun indice sur mon passé. Rien sur ces panneaux n'avait d'intérêt pour moi. La date de la fondation de l'abbaye, 1337, son appartenance à l'ordre des bénédictins, sa restauration par le cardinal Mazarin, les activités viticoles des moines jusqu'à la Révolution. Tous ces détails glissaient. Je m'en fichais. Un vague sentiment de culpabilité m'habitait. Mes parents étaient des passionnés de ces vieilles pierres. Pas moi. Qui pouvais-je ? Je me doutais que le plus intéressant dans ces ruines se situait au-delà des barrières, l'entrée des souterrains, les véritables fouilles. Mes souvenirs aussi, peut-être, s'étendaient au-delà des barrières. L'idée germa vite, passer discrètement du côté interdit. Aucun des rares touristes ne faisait attention à moi. À part la Suédoise à l'accueil, je n'avais repéré aucun gardien. En un instant, je me baissais et passais sous la corde. Le terrain descendait rapidement dans une sorte de petite cuvette. Plus personne ne pouvait me voir. Mais s'il m'arrivait quelque chose, je pourrais toujours crier. La Suédoise du guichet viendrait me masser ou me faire du bouche à bouche. Au fond de la cuvette, les herbes hautes, ronces et orties me cinglèrent les jambes. J'avançais doucement, en essayant de marcher sur des vieilles pierres taillées. Je ne reconnaissais toujours rien. Un peu plus loin, j'aperçus une forme sombre, entre plusieurs blocs de pierre qui me semblaient particulièrement instables.
l'entrée d'un souterrain ou quelque chose de ressemblant. Je m'approchais. Je passais ma tête dans le trou. On n'y voyait rien, même en plein jour. Tout semblait près de s'écrouler. Quelques marches descendaient dans la pénombre. J'hésitais à rentrer, pestant contre ma stupidité. Je n'avais pas pris de lampe. Même si je voulais jouer les héros, je n'allais rien voir. Quel aventurier amateur je faisais. Il était ridicule de s'aventurer dans ce tunnel. Je rebroussai chemin en faisant un détour pour éviter cette fois-ci les ronces. Mes pieds écrasèrent un objet métallique enfoncé dans l'herbe. Je me penchai et découvris un vieux panneau indicateur en métal émaillé, tombé et recouvert par la végétation. Je le retournai et lus l'écriteau de chantier rouillé. Fouille archéologique de l'abbaye Saint-Antoine. Autorisation 1982-04-511. Jean et Anne Rémy. Association Saint-Antoine. Rien de plus. Pas le moindre indice. Seulement un signe, ce signe, ce vieux panneau tordu. Si l'envie me prit de détruire tout ce qui restait de ces vieilles pierres, une voix sournoise dans ma tête me soufflait que mes parents avaient passé leur vie dans ces ruines, à les remonter à la surface, à les trier, les classer, les empiler pendant des années. Ils en étaient morts. Pourquoi ? Pour ces ruines désertées ? Visitées par des fantômes, quelques touristes égarés que je maudissais et qui en plus n'entendraient jamais parler de leur existence. Jean et Anne Rémy. Pas une fois leur nom n'était inscrit à l'entrée de l'abbaye, sur le billet à 4 euros, sur une affiche. Sans doute pas non plus sur le guide bleu de la prof. Juste un panneau cabossé et oublié. Quel gâchis. Qu'avait-elle de si important pour mes parents, ces pierres ? De si important qu'ils en soient morts. Je tournai encore quelques minutes, puis ressortis. J'avais le blues. La Suédoise, dans son guichet, avait mis des lunettes et ne leva même pas le nez de son bouquin pour me regarder. Tout m'énervait. Il fallait que je me calme. Il fallait que je me concentre sur l'étape numéro 2. Je réfléchissais. Mon second objectif de la journée était de retrouver ma nourrice. Je rassemblais mes souvenirs. Elle habitait près de l'abbaye, un peu au sud, une maison isolée. Je me souvenais que j'y allais souvent avec ma mère le matin, et Nounou Martine me ramenait à midi pour manger avec toute la tribu d'archéologues. Même chose dans l'après-midi et le soir. Je faisais donc le trajet 4 fois par jour, de l'abbaye à la maison de ma nourrice. J'avais 6 ans. Face au lieu, la mémoire allait forcément me revenir. Une fois passé l'abbaye, machinalement, je pris à droite. 200 mètres plus loin, j'arrivai à un croisement qui ne me rappelait absolument rien. Au hasard, je pris encore à droite. Au bout de 500 mètres, je m'enfonçais toujours dans la lande. Je ne voyais plus aucune maison, seulement les touffes d'herbe sur le talus, de part et d'autre de la route déserte. Stéphanie, depuis 11 jours, essayait de nous apprendre à les reconnaître. Le forbe maritime, la queue de lièvre, la ravenelle, l'oya. Odorant, passionnant. Mais je n'avais pas de temps à perdre pour un cours de botanique appliquée. Je m'étais trompé de route. Au loin, plein ouest, j'apercevais déjà la mer, une petite plage baptisée la Crique aux Mauves. Raté. Demi-tour. Revenu au croisement, je pris donc tout droit, direction Saint-Argan. Juste après un virage, je découvris un hameau. 3 petites maisons basses, aux murs épais de granit piqueté de mousse sombre, telles des taches de vieillesse sur une peau flétrie, aux façades rajeunies de roses trémières de toutes les nuances de mauve. Et les volets, rouge vif bien entendu. Un panneau bleu indiquant les charmes. Une vague impression de paysage familier me revenait. C'était là, du moins il me semblait. Ma nourrice s'appelait Martine, mais je n'avais aucun souvenir de son nom de famille. Le propriétaire de la première boîte aux lettres s'appelait Michel, celui de la seconde, Bernard. Sur la troisième, une petite plaque de fer noir était gravée « Martine Chamard ». Gagné. Le jardin de la petite maison grise était fermé par une barrière de bois, rouge elle aussi, de la même teinte que les volets. Une descente de garage assez raide, des poules au fond du jardin. Des souvenirs enfouis semblaient me revenir. La descente du garage où je courais, mais tout me paraissait tellement plus grand dans ma tête, beaucoup plus grand que cette fermette tassée. Je sonnais. Un chien aboya derrière la porte. Une main un peu tremblante tira le rideau de la fenêtre. J'aperçus un visage ridé derrière la fenêtre sale. La main toujours tremblante ouvrit la fenêtre. « C'est pourquoi ?» C'était elle.
J'en étais persuadé, même si j'étais incapable d'identifier d'où provenait cette certitude. Sa voix, ses gestes, l'ensemble, l'ambiance. Sans rien reconnaître de particulier, tout ici m'apparaissait désormais familier. Sans me souvenir de rien distinctement, j'avais pourtant l'impression d'être capable de décrire l'intérieur de la maison, de pouvoir retrouver sans me tromper la cuisine, le salon ou la chambre.
« C'est pourquoi ?»
insista-t-elle à nouveau d'un air méfiant. J'hésitais. Une boule terrible me coinçait la gorge. Qu'allais-je dire ? Madame ? Nounou ? Martine ? Jamais depuis 10 ans je n'avais ressenti une telle émotion. Je me décidai enfin.
« C'est moi, Colin. Colin Rémy. »